C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Un mot sur le meurtre de cet ado, parce que ça fait énormément réfléchir, puis je dirais nos pensées vont aux parents, aux proches. Bénédicte me racontait hier que les parents qui habitent à proximité, l'ado retournait chez lui, il fallait qu'il soit là avant 9 heures. Quand arrive un drame comme celui-là, les médias sont présents. Puis là, je ne porterai pas de jugement, mais je pense que les parents ont le droit d'avoir la paix. Moi, j'ai jamais été un journaliste qui pratique là, le cognage à la porte ou les coups de fil pour des gens qui ont un drame épouvantable à affronter. Tu sais, ton fils qui était là au souper probablement, puis qui n'est pas revenu parce qu'il a été assassiné, puis tu sais pas pourquoi, puis tu comprends pas. Elle me disait que les parents ont tiré les rideaux et est en train justement de se couper du reste du monde. Tu veux pas être achalé. Puis je blâme pas les gens terrain, ils ont des jobs à faire, puis ils ont des commandes, mais c'est le genre de truc, il me semble que de laisser une carte, c'est une chose, mais d'aller cogner, puis d'espérer quoi? Une entrevue de parents effondrés, qui veulent pas parler, me semble que c'est pas nécessaire, puis ça apporte peu de choses à l'histoire. Je dis pas que ces gens-là auront pas envie de témoigner plus tard de ce qu'ils ont vécu, mais le facteur temps m'apparaît bien important. Ce matin, c'est tout chaud, c'est une étude de l'Observatoire de la petite enfance qui rend public, en fait, on appelle ça l'Observatoire des tout-petits, là, l'espèce de portrait de santé des enfants de 0 à 5 ans. Puis il y a un certain nombre de conclusions. C'est sûr que les enfants de ce groupe d'âge, durant la période de pandémie, tu sais, c'est pas rien, là, presque 2 ans, là, de mesures de confinement puis d'allègement de mesures sanitaires, ces enfants-là n'ont pas eu tout à fait le même développement que des enfants dans une période, disons, hors pandémie. Des parents anxieux, inquiets, ben il y en a, puis ça transmet l'anxiété aux enfants, puis c'est vrai pour les tout-petits. Et il y a 2 observations hors pandémie qui sont importantes, c'est-à-dire qu'entre 2016 et 2019, il y a 40 % des enfants âgés de 3 à 5 ans qui ne bougent pas assez, qui ne font pas ce qu'on appelle le minimum en termes d'activité physique. Et un enfant sur 2 passe trop de temps devant les différents écrans. Ça veut dire tablette, ça veut dire le téléviseur, ça veut dire, bon. Ça, c'est avant la pandémie. Imaginez, pendant cette période de confinement, on peut penser que le temps devant l'écran puis a augmenté, puis que le temps consacré aux activités physiques a probablement baissé. Et l'autre chose qui m'a aussi frappé, puis qu'on a peut-être tendance à oublier, c'est l'effet. C'est pas toujours mesurable, on le sent peut-être toujours pas comme parent, mais des enfants qui sentent que ça va pas chez leurs parents, il y a presque, quoi, je pense c'est 12 % des mères qui avaient connu la violence conjugale avant que l'enfant ait 2 ou 3 ans. C'est pas banal là, comme chiffre. Et c'est sûr que un enfant voit ça, puis même à 2 ans, est affecté par ça, puis il va probablement l'être pendant plusieurs années. Ça dépend des enfants. Il y en a qui sont peut-être plus résilients que d'autres, mais il y en a d'autres qui sont visiblement plus affectés. Alors, on va faire le point tantôt, justement, sur cette étude, mais ça nous fait réfléchir, je pense, comme adultes, puis comme parents, aux responsabilités qu'on a à l'égard des enfants. Il y a eu ce témoignage hier de la belle-mère de cette petite fille de Granby. Essentiellement, puis elle l'a dit, elle est venue donner sa version des faits. Elle nous a présenté l'enfant comme un enfant qui avait des problèmes, c'est un enfant qui était suivi, c'est un enfant qui pouvait faire des crises, pouvait uriner sur le plancher, tentait de faire des fugues. Dans le fond, si je résume, là, elle a décidé d'enrubaner l'enfant. Puis on lui a même mis une chemise d'adulte, comme une espèce de camisole de force, pour l'empêcher de sortir. Et elle dit, mon intention, c'était pas de la tuer. Mon intention, c'était pas de faire du mal à l'enfant, c'était de l'empêcher de sortir puis de l'empêcher de se faire mal. J'ai roulé ça autour du torse et je l'ai serré au niveau du torse. Combien de tours, je le sais pas. Et elle pensait qu'elle était en sécurité de cette façon-là, puis qu'on bloquait la porte de la chambre. Je rappelle que la pathologiste est venue dire que l'enfant est décédé parce que la bouche et le nez étaient bloqués. C'est l'hypothèse, après avoir éliminé d'autres possibilités. Et elle dit qu'elle espérait que sa fille, sa belle-fille, si vous voulez, soit hospitalisée, puis qu'on la garde là, pour traiter ses problèmes. Autrement dit, c'est un enfant à problème. J'avais pas de mauvaises intentions. Mais tu sais, ligoter un enfant dans une chambre avec du tape, puis barrer à la porte avec des meubles, puis dire... Puis c'est un enfant qui, visiblement, là, était sous le poids normal, puis il y avait d'autres marques. C'est sa version. Elle sera contre-interrogée. Mais, en tout cas, disons qu'on va réserver nos commentaires pour la suite des choses. Et je rappelle aux parents qu'il y a des jours de grève qui sont prévus, encore une fois, dans les CPE pour les éducatrices qui sont membres de la CSQ. Alors, c'est la semaine prochaine, 22, 23 et 24 novembre. Il y a d'autres dates pour d'autres syndicats qui sont prévues. Puis vous savez que les syndicats également contestent les augmentations de salaire annoncées par le gouvernement. Moi, je comprends pourquoi, là. Tu sais, Sonia Lebel, présidente du Conseil du Trésor, M. Lacombe à la famille, arrivent puis disent, nous autres, là, on veut tellement que vous ayez des bonnes conditions puis on veut tellement reconnaître votre travail qu'on n'attend pas que la convention collective soit signée. Paf! Voici les augmentations. Puis il y en aura même plus à ajouter sur la table. Le syndicat dit, excuse-moi, là. Mais c'est avec les syndicats que tu négocies. Tu ne peux pas décider des conditions, même si ce sont des augmentations de salaire. Mais c'est habile, la part du gouvernement. Comment t'expliques à tes membres que tu es contre le fait, puis c'est pas en contrepartie de quelque chose, là? Il n'y aura pas d'augmentation de salaire telle qu'annoncée. En tout cas, je ne sais pas trop comment ça va tomber, là, parce qu'il y a une requête qui est présentée devant les tribunaux. Enquête du coroner. Présidé par Guéane Kamel sur le désastre, l'hécatombe dans les centres de soins de longue durée. Vous savez ce que je pense depuis le début, on aurait dû avoir une commission d'enquête publique en bonne et due forme. N'importe quelle tragédie de cette ampleur aurait automatiquement amené la création, mais Québec n'a pas voulu. Et hier, les témoignages amène un éclairage quand même important. Puis je vais essayer de résumer ça là, ce matin. Là. Je comprends que le virus, c'était une bête difficile à saisir, à cerner, et que, pour reprendre l'expression, là, on construisait l'avion en pilotant. Il y a quand même des choses là-dedans là, qui font, disons, sursauter. On a, au début de février, compris qu'il y avait une pandémie qui s'en venait. Ce qui n'a pas empêché le docteur Arruda d'aller au Maroc, puis de peut-être pas sonner l'alarme aussi rapidement, puis toute la question des approvisionnements. Je dirais, par contre, que la santé publique, jusqu'à cette pandémie, c'est un poste de dépense pour le gouvernement qui n'est pas prioritaire. T'sais. Puis les équipements, puis l'achat de masques, je comprends, c'était pas là, faut garder des stocks élevés. Ça, c'est une chose. À la lumière de l'expérience, notamment en Italie, on s'est dit, il faut préparer les hôpitaux, on va être inondé de patients. Ça va débarquer, là, il faut vraiment augmenter la capacité hospitalière. Par contre, les centres de soins de longue durée n'ont pas fait l'objet de mesures, de plans. Puis rajouter à ça une directive, Dr. Lissou Paterné a dit que ça a été mal compris, mais c'était pas de transfert des patients vers les hôpitaux. Alors non seulement on n'a pas transféré des gens vers les centres hospitaliers, mais on a transféré des personnes vers les centres de soins de longue durée, qui étaient pourtant des établissements à risque, sans mesure très spéciale. Bref, c'est comme du bois sec, puis t'attends que l'allumette craque pour que le feu prenne. Et c'est pas mal ça qui est arrivé. Puis je rappelle que le coroner n'est pas là pour trouver des coupables. Le coroner essaie de comprendre, puis elle a dit elle-même qu'elle trouve ça bien bizarre, la directive, puis que ça a été interprété terrain de façon trop stricte. Puis que beaucoup de directives de santé publique étaient basées non pas sur la science, comme on s'est souvent fait dire, mais beaucoup sur les stocks disponibles d'équipements. Tu sais, quand on disait, ben, ce masque-là n'est pas nécessaire, c'est surtout parce qu'on en avait pas assez pour tout le monde. Et le déploiement de ces équipements dans les centres de soins de longue durée, ça faisait quand même assez dur. Fait que si on se demande pourquoi il y a eu tant de morts, puis on ne se le cachera pas, là, il y en a eu plus au Québec qu'ailleurs dans ce type d'établissement. Même si on a des gens qui étaient vulnérables, des gens qui étaient en fin de vie, c'est non seulement le fait qu'ils soient morts, mais c'est la façon dont ils sont décédés, dans plusieurs cas, abandonnés, coupés de leurs proches, morts de faim, de soif, comme on a pu constater dans certains éléments d'enquête. Puisqu'on parle de la COVID, d'abord, avec Elisabeth, on va regarder tantôt le fait que beaucoup de jeunes, des ados qui ont dit, nous autres, le masque, on s'est habitué à ça, puis on aime mieux le garder en classe. Ce qui souvent détonne avec le discours de certains parents qui étaient, je pense, davantage inquiets que leurs propres ados. Alors, donc, il y en a beaucoup qui ont décidé, malgré la levée là, de la règle sanitaire, de continuer à porter le masque. Puis encore, les experts que vous avez entendus depuis hier, qui trouvent... Puis là, on regarde ailleurs dans le monde, là, l'Autriche qui confine les non-vaccinés. Je pense que c'est en Allemagne qu'on est en train de revoir les heures de la restauration. L'Europe, sans cette autre vague, il faut dire que le taux de vaccination est quand même plus bas qu'au Québec, un. Que deux, on a quand même donné là, dans les mesures strictes pendant quand même de bonnes périodes de temps. Et ajoutons à cela que la vaccination chez les enfants va commencer. Alors, malgré tout, les experts disent, est-ce qu'on n'aurait pas pu attendre un peu, voir le retour au travail, la vaccination chez les enfants, puis peut-être être plus tolérant? Parce qu'il y en a beaucoup qui font le calcul qu'à la période de Noël, on va avoir une augmentation du nombre de cas. Puis des cas, ils sont quand même assez élevés au Québec, mais c'est rien là, comparé à ce qu'on voit en Autriche. Et je vous rappelle ce que le Dr Weiss nous disait il y a quoi? Quelques jours à peine, la semaine dernière. Bien important de vacciner les enfants, mais c'est surtout important de vacciner, troisième dose, les gens pour qui le vaccin perd un peu de son efficacité. Puis là, on vaccine là, les prises de rendez-vous pour les gens de 65 ans et plus, 70 ans et plus, mais lui prône une vaccination quand même beaucoup plus étendue et ça va mieux protéger ceux qui sont à risque de faire des complications. Tout ça parce qu'on entre dans une période de l'année où on est plus à l'intérieur, toute la question de la transmission par aérosol, la ventilation des lieux clos, bref, lui il y a l'approche très, disons, claire là-dessus. Puis il nous l'a répété deux fois en disant « faut vacciner le plus rapidement possible les gens, leur donner cette fameuse troisième dose. » Bon, il y a tout le débat sur le salaire minimum dans la restauration. Puis hier, c'est parti d'une annonce, puis il y a beaucoup de gens qui nous l'ont partagé, là, du restaurant au pied de cochon, qui est un restaurant, si vous ne le connaissez pas, là, c'est un des gros restaurants de Montréal, symbole de la gastronomie, fait partie avec Joe Beef là, de... ces restaurateurs, Toqué et d'autres, là, qui se sont affirmés au fil des ans comme des références, non seulement montréalaises, mais aussi à travers le monde. Donc, petite annonce, on cherche un cuisinier et on paie, on offre le salaire minimum 13,5$ de l'heure. Là, il y a des gens qui ont dit, un peu, là. Ça coûte quand même cher quand tu vas manger là. Tu ne peux pas croire qu'on paye le cuisinier 13,5$ de l'heure. Martin Picard, à qui on va parler tantôt, dit « c'est pas tout à fait ça qu'on aurait dû écrire, on aurait dû dire à partir de... » Puis là, son copropriétaire dit « on peut pas augmenter de 15, 20, 30 % la rémunération, puis ajouter à cela qu'il y a un partage des pourboires entre les serveurs, serveuses et la cuisine. » Je lisais ce matin les propos de l'Association des restaurateurs du Québec. Ils veulent pas se prononcer sur le cas, mais ils en reviennent pas de voir que des McDo payent 15, 16 $ pour attirer la main-d'œuvre, puis là, on ne parle pas d'un restaurant gastronomique, là, puis que des restos comme ça ne sont pas capables de mieux payer leurs employés. Puis ça pose toute la question. Rappelons-nous chez Mousseau, qui tape à plusieurs reprises sur le message en disant « il faut payer le monde correctement, sinon on n'aura pas de service ». Puis je sais, il y a des gens qui m'écrivent régulièrement, « Monsieur Arcan, vous êtes allé au restaurant récemment, avez-vous vu le prix ?» Puis parle de restaurant là, de famille, là. Bien, c'est sûr qu'à un moment donné, le prix des aliments augmente. Tu veux garder tes employés ou tu veux en attirer, il faut que tu payes. Mais c'est quand même étonnant que le pied de cochon affiche comme ça. Puis je pense que c'était 5 postes en plus qu'il cherchait à combler. Disons que c'est beaucoup. Alors, il sera avec nous ce matin. Mais tu sais qui va aller travailler comme cuisinier à 13,5$ de l'heure? Sérieusement, là, Quand même étonnant. Pierre-Carl Péladeau perd contre sa sœur Anne-Marie. C'est une chicane qui dure depuis, je sais pas, 15-20 ans facilement. Et c'est la cour d'appel qui donne raison à Mme Péladeau. C'est un litige. Je ne rentrerai pas dans tous les détails, mais c'est la fondation, dans le fond, familial. Elle a vendu ses actions. Elle devait se faire rembourser. Puis là, il y a eu question d'interprétation. En un mot, la cour dit, on ne sait pas si c'est une mauvaise intention ou pas, on n'est pas là pour déterminer, mais il est clair que le jugement est exécutoire et qu'on doit payer le montant, payer les intérêts, et ça va permettre à Mme Péladeau de passer à autre chose. Et un des arguments de la famille Péladeau, c'était de dire, on n'est pas pour lui donner tout cet argent-là maintenant, compte tenu de ses problèmes de consommation de drogue, et que c'était pour la protéger. Mais là, on a déterminé, c'est la cour d'appel qui a tranché, qui a dit « faites le chèque ». Et peut-être, je vais terminer avec la crise climatique. Quelques articles intéressants ce matin, notamment dans le Devoir, où on nous dit que le Québec est mal préparé. Tu sais, on regarde ce qui se passe, la COP, puis les enjeux, mais regardons ce qui arrive au Québec. Puis c'est intéressant parce qu'on le voit, on est dans le sud, et que des régions comme Montréal, le Grand Montréal, avec l'augmentation du degré, bref, réchauffement de la planète, on va connaître des épisodes de plus en plus fréquents. Puis j'en ai souvent parlé avec les gens d'Ouranos, Alain Bourque, de ces épisodes plus nombreux, de chaleur extrême, d'inondations, de tornades. Et ça touche, on le voit, la canicule, donc des périodes en été. On disait que le mois d'octobre est un des mois les plus chauds qu'on a vu. Puis il y en a qui vont très loin, là, qui disent que plus ça va avancer, plus il y a des territoires... Par exemple, les îles de la Madeleine qui vont être ravagées, grugées par le réchauffement de la planète. Même des quartiers de Québec, si vous fiez à certaines cartes. Alors, vous lirez ça dans Le Devoir ce matin. C'est pas d'être sur le bouton panique, mais en même temps, c'est d'être conscient que ce réchauffement a des conséquences, a des effets, puis va avoir, je dirais, un impact sur la vie des plus jeunes puis de nos enfants. Et c'est un texte bien... je dirais ficelé ce matin, puis ça donne une perspective assez locale de ce qui se passe au Québec.
L'essentiel de Paul Arcan. L'essentiel de Paul Arcan.
Comment vont nos bébés? Voilà la question que l'on pose ce matin, puisque on a pu prendre connaissance de l'analyse du rapport de l'Observatoire des tout-petits. Donc, les 0-5 ans, comment ont-ils vécu la période de pandémie? Qu'est-ce qu'on doit surveiller pour les prochaines années avec eux? Deux invités pour en parler. Fanny Dagenais, qui est la directrice de l'Observatoire des tout-petits. Madame Dagenais, bonjour.
Bonjour.
Et Julie Poisson, qui est professeure au département d'éducation et formation spécialisée de l'UQAM. Madame Poisson, bonjour.
Oui, bonjour.
Madame Dagenais, je commence avec vous et je commence avant la pandémie. Il y avait quand même un certain nombre de constats qui étaient faits sur, par exemple, le temps passé par les tout-petits devant des écrans, là, tablettes ou téléviseurs, et en parallèle aussi, le manque peut-être d'activité physique pour les enfants, et ça avant la pandémie.
Oui, absolument. Donc, c'est 40% des enfants âgés de 3 à 5 ans qui ne rencontraient pas les recommandations en matière de temps passé à faire de l'activité physique tous les jours et 52% de ceux-ci qui ne rencontraient pas les recommandations en matière de temps passé devant les écrans. Donc, nos tout-petits ne bougent pas suffisamment et passent trop de temps devant les écrans. Et plusieurs études publiées pendant la pandémie ont documenté l'effet de celle-ci sur la sédentarité chez les enfants. Alors, ce sont des données qui sont susceptibles d'aller en augmentant.
Mais ça veut dire, ouais, qu'ils n'ont pas bougé plus, puis ils n'ont sûrement pas passé moins de temps devant les écrans. Madame Poisson, ce constat se traduit comment? C'est quoi l'effet sur les bébés?
Mais on connaît pas exactement encore l'effet là sur les enfants de la sédentarité plus grande possible suite à la pandémie ou l'exposition plus importante aux écrans. Mais on connaît par contre les effets de l'exposition aux écrans hein, sur le sommeil par exemple ou sur les comportements d'attention, la concentration. Donc on peut penser que le fait pour plusieurs enfants d'avoir accru la sédentarité, d'avoir accru le temps passé devant les écrans, on va voir aussi des effets négatifs qui vont se manifester là aussi suite à cette exposition-là.
Bon, je reviens à vous, Mme Daget. Les bébés COVID, là, souvent, il y a une image qui veut que quand les parents sont hyper anxieux, ça se transmet aux enfants puis ils le deviennent. Puis on comprend que les 18-24 derniers mois n'ont pas été faciles, le confinement, isolement des enfants qui n'ont pas été socialisés comme normalement il aurait dû l'être. Vous avez quand même des constats assez clairs là-dessus, là.
Oui, absolument. Donc, les études qui ont été publiées depuis les débuts de la pandémie nous indiquent que les enfants sont parmi ceux dont la santé mentale s'est le plus détériorée pendant la pandémie. Donc, par exemple, on retrouverait chez ceux-ci davantage de symptômes anxieux et dépressifs, plus de troubles du comportement, une diminution de la capacité d'attention et de la quantité et la qualité du sommeil chez les enfants. Donc, évidemment, tout ça peut avoir des répercussions sur le bien-être, le développement des tout-petits, mais comme on peut bien se l'imaginer, ça peut également avoir des répercussions sur les parents, parce que si on s'occupe d'un enfant qui a plus de troubles du comportement, qui dort pas bien la nuit, ben, il est fort à parier que nous non plus, on dort pas si bien que ça pendant ces nuits-là. Alors, évidemment, la santé mentale des adultes, ça l'a fait l'objet de différentes études pendant la pandémie. Et on sait que les parents de jeunes enfants sont parmi ceux dont la santé mentale a été le plus affectée.
Comment on va encadrer ces enfants-là? Ce sont les 0-5 ans, là, ils vont arriver à l'école. J'allais dire, Mme Poisson, qu'est-ce qu'il faut faire avec eux de particulier compte tenu de ce 18 mois qu'ils viennent de passer?
C'est sûr que c'est pas le rôle de l'Observatoire de donner des recommandations sur ce qu'il faut faire, mais en chose certaine, c'est qu'il faut se préoccuper de cette période-là qui a été assez intense, des symptômes anxieux, de la dépression aussi chez les enfants, l'augmentation des problèmes de comportement. Il faut certainement mettre en œuvre des services d'accompagnement. Et ça, c'est quelque chose qui est peut-être préoccupant. L'accès aux services de santé mentale était déjà difficile avant la pandémie. Donc, on peut s'imaginer dans le contexte actuel de la pénurie de ressources aussi qu'on voit, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre là pour soutenir nos enfants une fois qu'ils vont arriver, dès maintenant, mais aussi quand ils vont arriver à l'école.
Madame Dagenais, il y a un chiffre qui m'a fait sursauter. Là. Grosso modo, il y a 12% des enfants qui ont été témoins de violences conjugales avant l'âge de 2 ans.
Oui, effectivement, ce sont d'autres données qui sont préoccupantes dans le. Et on sait que pendant la pandémie, malheureusement, la violence de façon générale au sein des familles a été en augmentation. Alors, on peut imaginer que ces données-là qui datent d'avant la pandémie vont aussi aller en augmentant. Et évidemment, ce qu'on peut faire comme société pour agir tant sur la violence au sein des familles, sur la santé mentale des enfants, de leurs parents, et c'est vraiment de diminuer les sources de stress dans les milieux de vie. Alors, pour l'enfant, qu'est-ce que c'est leur milieu de vie principaux? Bien, c'est évidemment leur environnement familial, mais aussi leur environnement éducatif, donc le service éducatif à l'enfance qu'ils vont fréquenter. Et en agissant sur la qualité des services éducatifs et en diminuant les sources de stress au sein de la famille, comme par exemple en mettant en place des mesures de conciliation travail-famille, en favorisant l'accès à un logement abordable, en soutenant financièrement les familles les plus vulnérables. Mais de cette façon-là, on peut diminuer la pression et on aura des répercussions positives tant sur la santé, sur le développement des tout-petits que sur le bien-être de sa famille.
Bon, là, on vient de faire le tour d'un certain nombre de préoccupations qui sont plus que légitimes. Est-ce que vous avez observé aussi des changements ou des tendances positives?
Oui, bien en fait, le portrait révèle quand même de bonnes nouvelles. Par exemple, le succès du programme de vaccination québécois. Donc, c'est 97% des tout-petits qui ont reçu tous les vaccins recommandés pendant la première année de vie ici au Québec. Donc, évidemment, on est bien heureux de ça. Autre donnée intéressante, ben c'est évidemment toutes les données qui concernent là, le virus de la COVID comme tel. Donc, les tout-petits ont été peu touchés. Peu d'entre eux ont été hospitalisés en raison de la COVID-19. Aucun décès n'a été recensé à ce jour chez les enfants en bas âge. Et le risque de transmission du virus de la femme enceinte vers le nouveau-né est très faible, tout comme le risque de transmettre le virus à travers l'allaitement. Alors, les mamans peuvent continuer d'allaiter là, sans se préoccuper de ça.
Madame Poisson, j'allais vous dire un peu à la blague, c'est pas facile d'être un bébé.
Non, effectivement, on sait que c'est une période particulièrement sensible, hein, autant aux expériences positives que négatives. Ceci dit, c'est quand même une fenêtre d'opportunité pour intervenir. Comme les enfants ont un cerveau en plein développement, plus on va intervenir tôt, de façon intensive et concertée, plus on a de chance, en tout cas, de soutenir le développement des enfants pour qu'il y ait se développe de façon optimale, mais aussi c'est que c'est le meilleur moment pour intervenir plus que plus tard dans la vie en milieu scolaire ou même à l'âge adulte. Donc, si on est capable d'intervenir rapidement, qu'on détecte les difficultés, qu'on agit globalement sur plein de sphères, comme Mme Dagenet vient de le dire, le logement, les services de garde, la qualité du soutien parental aussi qui est offert aux enfants, on a des chances de renverser la vapeur.
Merci à toutes les deux. Bonne journée.
Bonne journée.
Au revoir. Fanny Dagenet, directrice de l'Observatoire des Tout-Petits, et Julie Poisson est professeure au département d'éducation et formation spécialisée de l'UQAM, donc le rapport de l'Observatoire. Comment se portent nos bébés au Québec? Puis il y a des choses à travailler, mais ce que ça illustre surtout, c'est l'importance des parents. Ça fait toute la différence, et plus le départ est solide tôt dans la vie, ben plus les chances de mener une vie agréable sont augmentées.
L'essentiel de Paul Arcan.
Pierre-Yves, tu reprends ce matin le dossier du salaire minimum pour les cuisiniers au restaurant au pied de cochon.
Oui, en fait, on va calmer le jeu un peu. C'est la nouvelle de une de journaux la plus disproportionnée que j'ai vue de ma vie.
Oh boy!
On va jaser. Commençons par parler de restauration. T'as deux choix comme dans n'importe quel commerce, hein? Tu fais une stratégie de différenciation. Ça veut dire que tu fais moins de ventes, mais avec une plus forte marge, puis tu sers moins de monde, hein? Avec des verres à 25$, puis des ustensiles plus chers, puis un décor plus cher. Ou tu fais une stratégie de coût, style McDonald's, c'est-à-dire faible marge, mais extrêmement gros volume. Tu sais, je donne un exemple. En 1996, ça fait 25 ans, là. Quand je servais des boulettes au McDo, une mauvaise journée, c'était 7 000$ de chiffre d'affaires, puis une bonne, c'était 14 000. Fais le calcul rapide, t'es entre 2,5 et 3,5 millions par année de chiffre d'affaires. Il n'y avait pas d'indignés au front page de la presse pour me défendre, là. Mais pourtant, on a fait une mauvaise association hier. Le plat se vend cher, donc on doit payer le monde cher. Ça marche pas comme ça. Ça veut pas dire que la marge au bout de l'année est plus grande. C'est pas les mêmes heures d'ouverture, c'est pas le même volume. Tu sais, tu as reçu la semaine passée le propriétaire du Mousseau.
Oui.
Il t'a expliqué ça. Il t'a dit, regarde, des clients payent un prix, j'ai des gens à payer, faut que je sois capable. Il y a une réalité. Puis, on va parler de l'indignation à géométrie variable.
Mais je te dirais, juste pour ajouter ce qu'Antonin disait, c'est que la volonté de payer des salaires plus élevés qu'ailleurs aussi. C'est-à-dire que dans sa philosophie de gestion, là, il charge cher parce qu'il dit que c'est un produit exclusif. Bon, je ne rentrerai pas dans les détails, mais il y a une volonté d'avoir des employés, cuisine, serveurs, avec des conditions de travail meilleures aussi.
Pete, elle dit lui-même, je suis endetté, ça me coûte cher, ouais. J'ai tout mis là-dedans.
Ouais.
Alors, l'indigné des réseaux sociaux d'hier, puis des journalistes, puis des économistes bien assis dans leur chalet, là, qui me disent l'argument suivant. Les plats sont chers, la personne qui travaille là n'a même pas les moyens de se le payer. Si tu rentres chez Burks, pense pas que la personne qui te vend un collier à 14 000 peut se payer le collier à 14 000. Ça s'appelle une stratégie de différenciation. Il n'y a aucun lien entre le prix puis la capacité de payer. C'est une question de volume. Ça dépend. Et je te donne un exemple. Dolorama ce matin.
Mm-hmm.
Dolorama, est-ce qu'on a vu des gens faire le front page de la presse ou de n'importe quel journal puis enfin aller voir les propriétaires et dire « Hey, au dernier trimestre, vous avez fait un milliard de revenus, 146 millions de bénéfices nets. » C'est quand même pas rien. En vendant des cochonneries à une pièce cancérigène produite par des gens exploités, là. Y a-tu quelqu'un qui est allé dire « Hey, ce modèle d'affaires-là, c'est donc épouvantable? » Non, parce que les bébés se vendent une pièce. Parce que c'est une stratégie de coût. Donc...
Mais moi, c'est-tu ce qui m'a étonné?
Non, vas-y.
Ben, d'abord, c'est que je pense qu'il y avait 5 postes d'affichés, 5 postes vacants.
Bon.
Mais tu dis, c'est un restaurant, quand même, je regarde ailleurs, là, où beaucoup de restaurateurs me disent, on est obligé d'augmenter de 10, 15, 20, 30 %. Je suis un peu étonné de voir qu'il n'a pas senti le même besoin pour attirer ou garder son monde.
Ben, tu sais, si t'affiches à un prix, c'est pas le prix que tu vas nécessairement. C'est une offre, hein? Ouais. Offre, demande, équilibre de marché. Faites-vous-en pas. Je peux afficher n'importe quel job. N'importe quel job. S'il y a personne qui veut faire le travail à ce prix-là, j'en trouverai pas. Puis de toute façon, si tu veux des bons cuisiniers ou des bons chefs dans ce genre de restaurant-là, t'auras pas le choix de payer. Alors, l'affichage, c'est comme une maison à vendre. C'est pas parce que tu demandes 1 million que tu la vendras pas 850 000. C'est la même chose avec l'indignation. Vous pouvez vous indigner, mais allez hypothéquer votre maison. Mettre 400 000 dans des améliorations locatives d'un loyer, là. Allez travailler 7 jours semaine. Payer des charges sociales. Hypothéquer votre vie dans une business dont l'espérance de vie est normalement très courte. Et venez après ça chialer d'un affichage de job. Moi, c'est ça qui me fascine. On a fait une tempête dans un verre d'eau. Si jamais il y a personne qui veut ou peut travailler à ce prix-là, il n'en trouvera pas. Donc, si on est en pénurie de main-d'œuvre, puis qu'il n'y a pas de valeur ajoutée supplémentaire à ça, il n'y a pas de problème. Il n'en trouvera pas de monde. Donc, c'est quoi le problème de s'indigner sur un affichage? On va aller plus loin. C'est une industrie qui, pendant des décennies, avait des statistiques officielles de rémunération très faibles. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de fraude fiscale. Je suis à peu près le seul à en parler dans les médias, on va continuer. Parce que c'est cash, cash, cash. Donc, tout le monde se partageait le cash en cuisine. Donc, les salaires officiels, on n'en faisait pas état. Là, depuis la pandémie, tout se fait par carte de crédit, carte de débit. Et là, tout d'un coup, on veut parler de revenus officiels. Mais parlons d'officieux. Il y a ça aussi. Donc, dans toute cette industrie d'offre et demande, dans tout ce lynchage public sur une offre d'emploi, dans cette première page de la presse, il y a une hypocrisie de A à Z. Tes clients, tu rentres à quelque part, tu casses un verre à terre, est-ce que tu le payes? Non, hein? Ton verre a peut-être coûté 25$ en verre. Ben, c'est quand tu retournes ton foie gras pour aller, qui a coûté quand même cher à la matière première, est-ce que tu le payes? Non. Ben, c'est ça, un restaurant de luxe. Il y a des coûts aussi. Puis sincèrement, Paul, je vois beaucoup de monde s'indigner, mais qui n'ont jamais mis leur dollar en jeu. Jamais de leur sainte vie ont dit « Je vais investir. » Mais OK, je vais te prêter un local. Va l'améliorer. Mets tout ton cash. Pas un client encore qui est rentré. La banque ne veut pas te financer parce que tu es un restaurant, tu es une business dangereuse. Puis là, après ça, tu affiches une offre d'emploi. Puis là, tu as un petit universitaire chez eux dans le fin fond de son chalet qui va dire « Mon Dieu, c'est de l'exploitation. Hey, prends ton argent, va le mettre dans le restaurant. Puis toi aussi, mets ton avenir en jeu. Puis viens dire que tu payes pas ton monde 50 000. C'est tough, la restauration. On n'est pas dans une business d'arc-en-ciel puis de licorne. La vraie vie est difficile. C'est chacun pour soi. Puis si jamais t'es trop fin avec ta rémunération puis tu vois la vie en rose, ben ton banquier puis ton syndic de faillite va te parler, il va avoir un encan dans le journal la semaine d'après dans les autres pages qui va dire « Liquidation de restaurant en faillite, la personne a payé trop cher, elle n'est plus en opération. » Au-delà des articles puis du vedettariat lié au pied de cochon, regardez la réalité en arrière de la restauration, ce n'est pas facile. Et moi, si j'ai de l'argent à mettre dans ma vie, c'est bien ailleurs que dans un restaurant.
Ça fait longtemps que t'es pas vu pomper de main.
Mais c'est parce que, tu sais, c'est facile, hein. Le lynchage public de ces temps-ci, depuis 2 ans à peu près, c'est pas compliqué, là. Quelqu'un s'indique. Du fin fond de sa cour, là. S'indique. Puis là, il y en a un autre qui suit. Puis un autre qui suit. Puis là, faut être du bon bord. Et là, tout le monde se bat pour être les premiers à s'indigner pour être du bon bord, entre guillemets. Mais la nuance a perdu sa place. Alors, dans le discours économique, il y a aussi une nuance. C'est-à-dire que, oui, il y a des bons revenus quand ça fonctionne, mais ça va mal. Moi, je connais plein de restaurateurs qui saignent présentement, qui sont à 7 jours semaine, qui se payent pas de salaire pour payer leurs employés. Puis après ça, le monde rentre et vient dire, « Hey, ta bouteille de vin est 42$. » Oui, elle est 42$. Je l'ai payé 12$ moins cher. Je te la revends 12$ de plus. Puis le type que tu payes dessus, il est pas à moi, il est à mon staff. Et pendant ce temps-là, j'ai mon locataire qui me contrôle la rue aux 2/3 puis qui me charge 7 000 de loyer par mois puis mes taxes foncières de la ville de Montréal. Puis tout ça, là, il y a personne, pas un client qui va le payer si jamais je suis pas capable. Donc, au-delà de l'indignation, regardez la réalité des états financiers. C'est le seul langage que le banquier comprend.
Merci, monsieur.
Salut.
Salut, bonne journée.
L'essentiel de Paul Arcand.
Bon, depuis hier, c'est une vague, un tsunami autour des conditions de travail au restaurant, au pied de cochon, parce que des postes de cuisiniers ont été affichés sur ce qu'on appelle le guichet d'emploi du Canada. puis on offre un salaire de 13,50 $. Alors là, vous avez vu la vague partir sur les réseaux sociaux en disant, mais comment se fait-il qu'un restaurant gastronomique n'est pas capable de payer mieux ses cuisiniers? Martin Picard, qui est le chef propriétaire, est avec nous. Martin Picard, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Arcan.
La première question, elle va être bien simple. Ça gagne combien un chef cuisinier chez vous, un cuisinier?
Un chef ou un cuisinier?
Mettons les deux, on va voir la différence. Le chef puis le cuisinier.
Ben, je sais pas, moi, c'est un peu délicat, là, mais mettons qu'il fait. Un chef va faire facilement au-dessus de 50 000 par année. Là.
OK, puis un cuisinier?
Cuisinier, en moyenne, tu sais, quelqu'un qui fait 40 heures, là, si, avec la répartition là, des pourboires, tout ça, va se retrouver autour là, de 18 $ de l'heure.
Okay.
Parce que il faut juste comprendre, là, j'ai de la misère à suivre tellement que ça partit en vrille. C'est qu'on a un cuisinier français qui veut revenir travailler chez nous. Il faut qu'on applique au guichet d'emploi Canada pour l'étude d'impact des marchés du travail. Donc, on doit afficher un salaire et on peut pas mettre à partir de. Donc, ce qu'il aurait fallu faire, et là, on le rectifie, on met 13, entre 13 et 50 et je sais pas combien. 18, 19, là, dépendamment là, des entreprises. Mais nous, on a mis 13,50. Donc, là, les gens, ils pensent que tous nos salaires sont à 13,50, mais les gens qui travaillent chez nous ont une bonne rémunération. On a un système avec une convention qui a été faite avec les employés et la répartition des pourboires se fait équitablement entre la salle à manger et la cuisine. De sorte que nos serveurs, eux, ont pas un salaire de... Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les serveurs, on a le droit de leur donner des salaires minimum à 10,50. Là, je suis pas très sûr. Nous autres, nos serveurs ont un salaire de base à 13,50 plus pourboire.
Okay.
De sorte que l'ensemble de l'œuvre fait en sorte que les gens ont un salaire qui... selon moi, là, très OK. Là, tu sais.
Là, juste comprendre deux, trois choses. La première, est-ce que je comprends qu'il y avait 5 postes de disponibles?
Ben, il fallait mettre un poste. Tu sais, ça, c'est notre technicien en comptabilité qui a mis 5 postes. Mais sérieux, on pourrait en avoir 10, on pourrait en avoir 15, on trouverait des places. Tu sais, on est en pénurie de main-d'œuvre. Pas juste la restauration, tout le monde est en pénurie de main-d'œuvre. Donc, pensez pas qu'on va aller mettre des salaires à 13,50 pour s'assurer que on va avoir un restaurant vide d'employés parce qu'ils veulent pas venir travailler pour nous. Tu sais, je sais pas. Là,
Mais la question, c'est qu'est-ce que... Parce qu'il y a beaucoup de restaurateurs qui disent qu'ils ont dû augmenter la rémunération de leurs employés justement pour les ramener ou encore pour être sûr de les garder de 10, 15, 20, 30 % depuis les derniers mois à cause de la pandémie. Dans le fond, si vous avez besoin d'autant de monde... Est-ce que c'est parce que vous les payez pas assez cher, en bout de ligne, qu'ils veulent pas revenir?
Ah, mais... Non. J'espère que non. Mais je veux dire, tous les gens sont à la recherche de main-d'œuvre. On fonctionne bien, là, au cul de cochon. On a notre staff. Le staff est là depuis la réouverture en juin. Il y en a qui sont partis, il y en a qui sont venus, mais dans l'ensemble, tout le monde est là.
OK.
Les gens semblent pas malheureux, là.
OK. Mais vous avez quand même besoin de beaucoup de monde, là, ce que je comprends.
Mais M. Arcand, tu sais, dans la restauration, il y a des restaurants qui vont avoir besoin d'un cuisinier pour servir 50 personnes. Tu sais. Si on fait 50 personnes, ben on va peut-être avoir besoin de 4-5 cuisiniers, tu sais, pour servir 50 personnes. Donc, tu sais, l'équation, elle est différente. Mais moi, je ne le sais pas... Si on regarde McDonald's, là, j'ai été voir, là, que les gens aient voir sur Indeed, les salaires sont offerts à 13,50 puis il y en a qui sont offerts plus cher. T'sais, chaque business, puis je ne suis pas en train de blâmer McDonald's, là.
Non.
Chaque business a sa façon de faire et a des rentabilités, des marges de profit à la fin qui sont différentes et on doit faire avec.
Okay.
Il ne faut pas partir que parce que... Oh, pardon.
Non, j'allais vous dire, c'est parce que... Parmi les commentaires que j'ai lus, puis je vais vous entendre là-dessus, il y en a qui disent, en raison de la notoriété, de la réputation de votre restaurant au pied de cochon, il y a des gens qui sont prêts à gagner moins pour pouvoir mettre dans leur CV qu'ils ont travaillé chez vous, ce qui leur permet peut-être d'avoir des débouchés ailleurs après. Bref, que vous jouez la réputation pour pas les payer plus cher.
C'est plus vrai, ça. c'est plus vrai. Ça fait des années et des années et des années que c'est plus vrai. Les jeunes viennent plus travailler. Moi-même, quand à la fin là, de ma formation, tu sais, ça commençait à disparaître, cette idée-là. Donc, tu sais, il y a eu de l'abus là-dessus, là, je comprends. Mais tu sais, ça, c'est une réalité qui n'existe plus dans notre métier.
OK. Là, il y a des gens, parce que l'équation est simple, vous allez dire, mais les gens la font en disant, c'est un restaurant gastronomique, ça coûte cher, puis c'est correct, là, les prix sont là. Mais en même temps, comment ça se fait que les employés gagnent pas plus?
Bien, j'ai tenté un petit peu, là, tu sais, nous autres, il faut plus de monde pour servir les gens. Et on a besoin d'un décor, je ne sais pas. Mais à la fin, ce que je peux vous dire, c'est que nos marges de profit depuis quelques années diminuent. Puis je cherche pas à faire la victime, là. Tu sais, moi, je suis aussi un homme d'affaires. Puis à la fin, c'est si j'ai pas raison, ben la business coule, c'est tout. Donc, il faut dégager des profits pour être capable de vivre année après année. Donc, nos profits qu'on espérait à 10 % il y a quelques années, aujourd'hui, tu sais, si on est capable d'avoir 5 % on est content. Mais c'est de plus en plus difficile. Donc, tu sais, nous, on n'est pas en train de payer notre monde dans le style de restauration qu'on fait, où je parle pour le pied de cochon. On n'est pas en train de payer nos gens, tu sais, pour les exploiter. Tu sais, on fait ce qu'on peut pour opérer notre business et puis que tout le monde soit content. Parce qu'un employé qui n'est pas content, c'est pas viable dans une business. La business, elle ne pourra pas avancer.
Et vous m'avez dit, là, quand on combine la formule pourboire, partage des pourboires que chez vous, là, ça pouvait donner 17-18 $ l'heure. Pensez-vous qu'avec la pénurie de main-d'œuvre, vous allez être obligé d'aller vers le 20, 22, 23 $ 25?
Bien, moi, j'inviterais là, les gens à aller sur Indeed là, puis qu'ils regardent là, les offres d'emploi. Là, ceux qui donnent le 20 $ de l'heure, là, c'est des hôpitaux, c'est des institutions, ça peut être gouvernemental, c'est des CHSLD. C'est d'autres types de cuisine. Je dis pas qu'il n'y a pas de restaurants qui donnent des salaires qui sont élevés comme ça, mais tabarouette, tu sais, ça doit pas être tant évident que ça à la fin de l'année arriver. C'est un défi qui est réel.
Et le fait d'avoir cette pénurie de main-d'œuvre qui vous touche, qui comme touche tout le monde, là, ça vous amène à faire quoi? À je sais pas, moi, couper les heures d'ouverture, à offrir moins? Comment vous gérez ça?
Ben nous, on sait qu'on est à. Notre équipe, elle est réduite, donc on fait un menu en fonction de ça. Et puis, il faut qu'à la fin, que le client il soit heureux puis qu'on constate que t'sais, il y en a pour son argent. On a coupé une heure, on ferme moins tard aussi, puis on a deux journées dans la semaine où on est fermé.
Quand vous avez vu partir ça en vrai, comme vous dites, là, ça a été quoi votre réaction hier?
Ben de pas comprendre. Je veux dire, ça fait 20 ans. Le 13 novembre, le pied de cochon a eu 20 ans. Je veux dire, si on exploitait les gens, je pense pas qu'on aurait pu, année après année, entretenir une réputation puis garder nos employés, tu sais, puis continuer à vivre comme business. Donc, tu sais, moi, c'est sûr que je suis tombé des nues, puis c'est dur encore à matin de comprendre ce qui se passe. Donc, je comprends qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec ça, mais tu sais, il faut peut-être comprendre puis c'est pas, je demande pas ça aux gens, mais la réalité de la restauration, c'est pas tant évident que ça, tu sais. Moi, il y a des business qui peuvent donner des gros salaires et c'est très correct. Si nous, on était capable de le faire, ça serait avec grand plaisir, tu sais, qu'on irait avec ça.
Monsieur Picard, merci. Bonne journée.
Merci, Monsieur Arcan.
Martin Picard est chef propriétaire du restaurant Le Pied de Cochon.
L'essentiel de Paul Arcan. L'essentiel de Paul Arcan.
Bon, il y aura des journées de grève dans les CPE la semaine prochaine. Par exemple, la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec, ma filiale à CHQ, prévoit des journées de grève lundi, mardi et mercredi prochain. Puis en plus, le syndicat a déposé une plainte au tribunal contre l'augmentation unilatérale du salaire des éducatrices décrétée par la présidente du Conseil du Trésor et le ministre de la Famille. Des augmentations quand même importantes avant même qu'il y ait une entente sur le renouvellement de la convention collective. Valérie Grenon est la présidente de la Fédération, donc, de ses intervenantes affiliées à la CSQ. Madame Grenon, bonjour.
Bonjour.
Commençons d'abord par les journées de grève. Là, 3 jours la semaine prochaine, ça veut dire quoi? Ça avance pas à la table des négos, là?
Pour l'instant, non. On est encore bloqué. Par contre, je veux souligner que le Conseil du Trésor et mon équipe vont être en négociation toute la semaine. Donc, on a eu des dates à tous les jours pour pouvoir régler la situation. Par contre, on voulait, en partenariat avec les parents, on l'est à tous les jours avec les enfants. Hein, donc, on voulait quand même avertir rapidement les parents pour qu'ils réussissent à se trouver un plan B la semaine prochaine si on n'a pas de règlement. Mais mon équipe a un mandat clair cette semaine. Profitons de toutes les journées qu'on a de négo pour régler. On pense être capable de régler, mais on voulait quand même prévenir les parents d'avance que s'il y a encore un blocage, ben il va falloir utiliser là, nos dernières journées de grève que nous avions en main.
Je peux comprendre que les parents sont sympathiques à votre cause, mais ça fait beaucoup de plan B là, depuis l'automne.
Ah non, tout à fait. C'est sûr que c'est pour ça qu'on voulait avertir d'avance. Il y a des parents, des fois, qui n'ont pas de plan B. Malheureusement, je pense qu'il faut comprendre que la situation actuelle, il y a des bris de service en ce moment parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Donc, il faut rapidement trouver des solutions avec la signature d'une convention collective pour éviter des bris de service à long terme.
OK, mais donc, je veux juste comprendre une chose, là, puis je veux pas qu'on négocie là par personne interposée, là, mais sur la place publique, mais... Est-ce qu'un des enjeux, c'est encore les augmentations pour les autres employés des CPE, là, je pense aux cuisinières, cuisiniers, que pour les éducatrices? C'est-tu encore ça l'enjeu?
Oui, bien, il y a un des gros enjeux, oui. C'est les autres corps d'emploi dans un CPE qui sont encore les grands oubliés de cette négocie. Puis il y a un autre enjeu qu'on est en attente du gouvernement, c'est au niveau de l'accueil et de l'intégration des enfants ayant des besoins particuliers. Nos intervenantes sont épuisées actuellement. On veut accueillir de... Il y a de plus en plus d'enfants avec des besoins particuliers. On veut poursuivre l'accueil et l'intégration. Malheureusement, le soutien n'est pas présent, que ce soit financier et humain. Donc, il faut régler cette situation-là pour donner une chance à tous les enfants, puis aider nos intervenantes là à rester dans le réseau dû à l'épuisement. Là, plusieurs veulent nous quitter.
Là vous déposez.
C'est les deux gros enjeux.
OK,
monsieur.
Parfait. Vous déposez une plainte au tribunal contre l'augmentation annoncée par Mme Lebel et M. Lacombe, le ministre du Travail, parce que quoi, ça n'a pas été négocié, ils augmentent comme ça unilatéralement de 15-20% le salaire des éducatrices, vous êtes contre ça?
On n'est pas contre une augmentation, on est contre le principe. Nous, on a signé un protocole de négociation avec le gouvernement, donc ils s'entendaient avec nous pour s'asseoir avec nous pour négocier. Et au lieu de négocier, il a décidé d'aller négocier avec la place publique et d'annoncer, avant même la fin des négociations, une offre salariale que nos membres avaient dit non et que nos membres ont redit non lors d'un référendum un peu plus tard là, après l'offre. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que le gouvernement arrête d'imposer des conditions.
Ouais, mais là,
pour négocier.
OK, ben, il a imposé des conditions, mais imposer des augmentations de salaire, là, vous êtes bien sûr que vos membres, là, ils veulent pas l'argent maintenant?
Ben nos membres, oui, à 95% nous ont dit lors d'un référendum qu'ils ne voulaient pas l'argent maintenant, c'est pas un argent perdu, mais il y a au-delà des sous, dans un CPE, ça a été qu'une augmentation pour les éducatrices. Toutes les autres éducatrices spécialisées, puis nommées toutes les corps d'emploi, eux, il n'y avait rien. Donc, pour
mais là,
elles,
depuis que ça a été annoncé, OK. Depuis que ça a été annoncé, est-ce que les chèques ont été faits? Est-ce que les salaires ont été bonifiés?
Ce qu'on sait, c'est que ça a commencé. Le gouvernement avait donné le mot d'ordre aux directions de CPE là, de le donner d'ici le 15 novembre. Donc, je peux pas vous confirmer à 100% si tout le monde l'a eu, mais selon moi, là, ça devrait avoir commencé pas mal. Là, c'est d'ici le 15 novembre que ça devait être fait.
Mais en quoi l'augmentation? Je comprends le principe. Vous dites qu'il faut que ça passe par la négo, là. Mais en quoi l'augmentation de salaire qui est donnée là, vous fait mal?
Ben c'est pas l'augmentation en tant que telle, faut comprendre, c'est vraiment la manière de fonctionner. On avait une entente, c'est pour nous c'est de l'entrave syndicale. Il y a un syndicat.
Non mais stable. On peut s'entendre que stable pour le gouvernement, tu comprends là. On dénonce avec raison les mauvaises conditions de travail des éducatrices. Puis la présidente du Conseil du Trésor dit vous avez tellement raison, j'augmente votre rémunération tout de suite là, puis on va régler, puis on va en remettre une couche de plus à la table. C'est pas pire comme approche.
Ben c'est sûr que c'était pour contourner. Veux pas, on avait l'appui de la population, donc ils ont utilisé une autre manière, mais il y a une chose qui est claire. Madame Lebel a dit fallait agir maintenant le 14 octobre parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Ben nous, en 2020, juin 2020, on voulait s'asseoir avec le Conseil du Trésor parce qu'on voulait régler maintenant. On était même prêt à juste régler le salaire puis à reconduire nos conditions de travail. Parce que oui, il y avait une pénurie, mais là, il n'y avait pas d'urgence, elle avait aucun mandat pour régler voilà un an. Donc c'est un peu peu ça qu'on déplore. On a un processus mis en place, on aurait pu embarquer dans le processus, puis si sous-là, les intervenantes les auraient eues dans leur rétro, parce qu'on le sait que notre convention collective est échue. Donc nous, ce qu'on déplore, c'est au lieu d'agir démocratiquement, d'écouter la voix des membres, puis de s'asseoir pour négocier. Avez-vous vu, cette semaine, ils le font, là, on a des négo à tous les jours. Malheureusement, ça fait plus de 18 mois qu'on est en négo. Okay. Donc c'est ce qu'on déplore, c'est l'attitude du gouvernement qui veut agir en décret et également en imposant des choses au lieu qu'on s'assoie, qu'on discute, puis qu'on s'entende sur des conditions de travail.
Parfait. Bonne journée, Mme Grenon. Merci.
Merci à vous.
Au revoir. Valérie Grenon est la présidente de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec. Alors, je rappelle aux parents, là, c'est affilié à la CSQ, il y aura trois nouvelles journées de grève, à moins qu'il y ait déblocage ou entente d'ici lundi, mais c'est lundi, mardi et mercredi prochain.
L'essentiel de Paul Arcan.
C'est 23.